Mais rapprochez-vous et vous mettez-vous à l'ombre ou... Oh, peut-être vous pouvez rester à l'ombre, non? D'accord. Ok. 1 Corinthiens 1,6. Il va falloir qu'on fasse vite parce que le vent se lève ici vers midi. On a un quart d'heure. 1 Corinthiens 6. On va lire les versets 1 à 11. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
D'accord. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Un passage qui s'inscrit donc dans la lettre de Paul aux Corinthiens, qui fait des reproches à l'église de Corinthe pour leur façon de se conduire en tant que chrétiens. Et en fait, leur problème, c'est qu'ils sont un mauvais témoignage pour l'église de Christ. Et cette lettre, qui a été écrite il y a près de 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, en fait, elle doit nous interpeller à nous qui nous disons chrétiens aujourd'hui au 21e siècle, au début du 21e siècle. Est-ce que nous sommes des témoins de Christ qui faisons honneur à Christ, ou est-ce que par nos attitudes, nous faisons plus de tort au nom de Christ que de bienfaits au nom de Christ? Donc on va voir que ces problèmes qui se passaient il y a 2000 ans, nous devons les prendre en compte dans notre vie personnelle et dans notre vie en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée. En lisant, vous avez peut-être compris que le problème que Paul avait, un des problèmes que l'Église avait et que Paul confronte, c'est le problème des disputes entre chrétiens qui faisaient appel aux tribunaux civils. Dans l'Église, il y avait peut-être des gens qui empruntaient de l'argent à d'autres et puis qui ne le rendaient pas comme prévu, comme promis. Et pour récupérer leur argent, les gens qui avaient été lésés faisaient appel aux tribunaux civils. Et Paul explique que c'est pas ça qui va être un bon témoignage pour l'Église. On a vu récemment dans les partis politiques les disputes entre Le Pen et Maigret, par exemple. Tout récemment, entre Charles Pasqua et Charles de Villiers, les deux Charles, quand on les voit qui se déchirent et qui se disputent en public, ça donne certainement pas envie de se joindre à leur parti. Hein, c'est un contre-témoignage très fort. On voudrait... Leurs adversaires politiques se frottent les mains quand ils les voient se disputer entre eux. Et de la même façon, les incroyants, lorsqu'ils voient des chrétiens qui se déchirent, que ce soit entre eux, entre dénominations, entre les baptistes, les pentecôtistes, les Calvary-Chapelle
Les adventistes,
voilà. Eh bien, ils se disent, eh bien, les chrétiens, je préfère rester tranquille devant ma télé le dimanche matin ou faire la grasse matinée j'ai pas besoin de d'aller trouver des disputes. C'est vrai que en Grèce, les gens étaient très portés sur les procès. C'était presque devenu une distraction, un passe-temps national. Vous savez que l'art oratoire était très prisé chez les Grecs. Hein, on a des orateurs comme Démosthènes, comme bien d'autres. C'était un talent qu'on aimait cultiver et ils aimaient bien aller voir assister aux procès. Et la capitale c'était Athènes, Corinthe n'était pas loin et donc ça avait fait tache d'huile. Et là aussi à Athènes ils aimaient bien aller assister aux procès. Aux États-Unis, il y a une maladie des procès. Pour un oui, pour un non, les gens se mettent des procès sur le dos. Souvent par intérêt du gain. Parce que si on trouve une bête, par exemple, dans une boîte de conserve, il suffit d'intenter un procès à une grande compagnie pour avoir de l'argent pour le restant de ses jours. Donc il y a cet appât du gain. Il y a souvent des compensations ridicules qui font que pour un oui, pour un non, les gens se collent des procès. Et je crois qu'on arrive un peu à ça maintenant en France. On peut se retourner contre la mairie. D'ailleurs, les maires se plaignent de ça. On ne peut plus avoir de toboggan dans les jardins publics parce que si un enfant se blesse, les personnes, les parents peuvent se retourner contre la mairie et même contre le maire personnellement. Alors c'est une maladie grave parce que ça paralyse l'initiative. On ne fait plus rien parce qu'on a peur de prendre des procès. Et quelque part, on est en train d'arriver à ça en France. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, dans un esprit de lutte anti-secte, qui a de bonnes raisons d'être, on a défini à l'Assemblée nationale le procès de manipulation mentale, le délit de manipulation mentale. Alors un accident, on peut voir qu'une voiture on est rentré dans une voiture, il y a des dégâts matériels, mais pour aller apprécier la manipulation mentale, c'est autre chose. Il y a le président de la Fédération protestante de France, et les évêques catholiques aussi, les chefs religieux juifs qui se sont insurgés, même les libres penseurs. Parce que où est la différence, disait le président de la Fédération protestante, entre un discours convaincu, un sermon passionné et la manipulation mentale? Ça peut être une arme à double tranchant qui on pourra nous reprocher un jour de vous parler avec conviction de certaines choses en disant « Vous avez manipulé Dani. Elle n'était pas comme ça avant. » Maintenant, elle est un peu farfelue. Et donc, c'est la tendance à porter devant les tribunaux tout ce qui se passe peut être très dangereuse. Et Paul explique comment est-ce que vous osez, lorsque vous avez une dispute entre vous, aller faire voir cela devant les tribunaux non-croyants, devant les païens, en quelque sorte. Paul ne s'attaque pas au système judiciaire. On le sait parce que lui-même a fait appel à César. Dans le livre des Actes, on voit qu'il a voulu être jugé par l'autorité la plus haute pour revendiquer sa liberté d'annoncer l'évangile, qui était sa passion, la passion de sa vie. Il a même dit que les autorités civiles, les autorités du gouvernement étaient une bonne chose et qu'elles avaient été mises en place par la volonté de Dieu. Dans la Genèse, il est dit que l'épée a été donnée au gouvernement, a été donnée pour punir le crime. Paul disait que l'autorité civile porte l'épée parce qu'elle est au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Et on voit aujourd'hui que, de la même façon que tout devient se traite par procès, il y a de moins en moins de condamnations. La peine de mort a été abolie en France. C'est vrai que d'un point de vue humain, du point de vue de compassion, on peut penser que c'est une bonne chose, mais la peine de mort a été instituée par la parole de Dieu pour le bien de la société. Là encore une statistique, il y a une augmentation de 75% des vols à main armée auprès des convoyeurs de fonds depuis le début de l'année. Les bandits savent qu'au pire, ils prennent quelques mois de prison et on vient les chercher en hélicoptère. Ils n'ont plus la peur de la peine capitale. Paul, on l'a vu, il utilise cette fameuse question « Ne savez-vous pas ?» Il leur dit « Ne savez-vous pas que les saints, c'est-à-dire les chrétiens, les saints, c'est pas comme dans la terminologie catholique, une personne super spirituelle que l'on peut vénérer et qui sert d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. La Bible est claire qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est à la fois homme et à la fois Dieu. » Et donc, il nous dit, ne savez-vous pas que les saints, les chrétiens, jugeront le monde ? Et ça, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Et ça, c'est une vérité qui est enseignée dans la parole, qu'au retour de Christ, les chrétiens participeront avec lui au gouvernement de la terre pendant 1000 ans. Et ça, on n'a pas trop de détails sur comment ça se passera, à savoir si on nous donnera des responsabilités par ordre alphabétique. On nous dira, tu étais à la Courbesse, bon ben tu as le quartier nord de la Courbesse, tu as toute la Courbesse ou la vallée de la Tinée. Mais il est certain que l'image que l'on s'est fait du paradis, où l'on sera assis sur le bord d'un nuage en train de jouer de la harpe, dans notre belle blouse blanche avec notre ceinture dorée, c'est pas la réalité. On sait quelque chose sur le paradis, on sait que nous serons en présence de Dieu, que nous serons dans la Jérusalem céleste, que nous louerons Dieu, qu'il n'y aura pas besoin de lumière, parce que la lumière de Dieu éclairera la ville. Alors il y a plusieurs passages qui parlent de la position des chrétiens avec Christ. Par exemple, dans 2 Timothée 2, il est dit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Par contre, si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Dans l'Apocalypse 2, 26, par exemple, il est dit « Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, c'est Jésus qui parle aux chrétiens, qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile. » Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Jésus nous dit qu'il va régner et qu'il nous associera à son règne. Et peut-être que vous vous dites, ça ne m'intéresse pas de régner, mais c'est ce que nous dit la parole. On ne sait pas exactement, mais Paul utilise cette certitude biblique pour nous dire, si vous allez juger les nations, c'est-à-dire des gouvernements, des entités nationales ou régionales ou communales, dans le futur, à plus forte raison, vous devriez être capable de juger des affaires qui vous opposent les uns entre les vôtres, les uns avec les autres plutôt. Si dans l'Église il y a des disputes, encore une fois, quelqu'un vous a passé de l'argent, vous ne leur rendez pas comme vous l'aviez promis, ils en ont besoin, au lieu de faire appel aux tribunaux et de déballer le linge sale au grand jour, Paul nous dit que vous devriez être capable de laver votre linge sale en famille. Alors, pour ramener ça un peu à notre échelon là, on n'a peut-être pas ce genre de situation, j'espère que non, mais si elle se produisait, il faudrait être à même de pouvoir en parler ensemble avec le pasteur ou des responsables de l'église et dire on va discuter ensemble, on va voir, tu exposes ton cas et devant Dieu on prie, on cherche une solution à l'amiable qui fasse honneur à Dieu. Le chrétien c'est pas une personne parfaite. Le chrétien c'est une personne pardonnée qui apprend à vivre en pardonnant les autres. Et donc ça fait partie de la croissance du chrétien que d'apprendre à pardonner, d'apprendre à régler les problèmes qu'on peut avoir. Les problèmes qui viennent par notre nature de pécheur, les problèmes qui viennent parce que nous avons en nous toujours cette tendance à vouloir tout pour nous d'abord. Mais en tant qu'Église, même en tant qu'Assemblée, il y a peut-être des petits problèmes les uns avec les autres, des personnes qui se sentent blessées parce qu'un tel n'a pas fait ça pour eux. Et avant d'en faire des sujets publics, surtout auprès des non-croyants, mais même au nom de l'Église, ça rejoint ce que nous avons vu la semaine dernière. On doit d'abord aller voir la personne un à un, en tête à tête, expliquer la situation, dire est-ce qu'on ne peut pas s'arranger, se mettre d'accord, se pardonner. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, on en parle à une ou deux autres personnes. Et puis seulement après, ça doit devenir public. Mais toujours cette idée de restauration, de pardonner, de raccommoder les choses. Paul avait dit déjà cette expression « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, par exemple, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il nous avait dit, on l'avait vu la semaine dernière, « Ne savez-vous pas qu'un peu de péché corrompt toute l'Église, un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Et on avait vu que le sens, c'était que c'est quelque chose que vous devriez déjà savoir. Que si vous êtes sérieux, vous êtes honnête, c'est quelque chose que vous avez déjà compris, mais vous agissez comme si vous ne le saviez pas. Et Paul s'écrit qu'en fait, si vous le savez, si vous l'appliquez, ça changerait toutes vos relations avec les autres. Donc de la même façon, il nous dit, ne savez-vous pas que nous jugerons le monde ? Sous-entendu, vous le savez. Et ça devrait vous faire réfléchir. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges ? Alors, les affaires de cette vie, si on va juger des choses spirituelles, c'est un pasteur qui disait, si quelqu'un vous a emprunté votre pelle dans le jardin, et qui ne vous l'a pas rendu comme promis, si vous êtes capable de juger des choses entre les anges, à plus forte raison, une histoire de prêt à un ami. Donc, la question c'est, est-ce que nous aussi dans notre vie, on l'avait déjà évoqué, il n'y a pas des choses que l'on sait bien au fond de nous-mêmes, en tant que chrétiens, et que nous n'appliquons pas. Et après, nous plaignons de nous trouver dans des situations complexes, où il y a de la peine, où il y a des douleurs, où il y a de la dispute. Alors qu'en fait, il y a des choses que l'on sait qu'on devrait mettre en application. Paul nous dit, ne savez-vous pas toutes ces choses ? Il nous dit au verset 4 que pour régler les problèmes que vous avez, vous faites appel à des gens dont vous ne faites aucun cas et vous les établissez comme juges. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que lorsqu'on fait appel à des juges non-croyants, c'est absolument ridicule. On a vu, nous a appris que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on apprécie ces choses. Donc, quelqu'un qui est chrétien, né de nouveau, qui a reçu l'Esprit Saint en lui, même s'il n'a pas fait une grande école de magistrature, il y a l'école nationale de la magistrature qui est le pendant de l'école nationale d'administration, même quelqu'un qui n'a pas fait cette grande école, s'il a reçu les choses de Dieu en lui, il est plus apte à juger les choses spirituelles, les disputes entre chrétiens, que quelqu'un qui aurait des tas de diplômes, mais qui serait encore pas régénéré, qui n'aurait pas cette vision spirituelle. Et donc, on pourrait dire que demander des conseils à des non-chrétiens pour arbitrer des conflits, c'est un peu comme aller rechercher de l'aide pour un mariage en difficulté auprès d'une personne qui aurait déjà divorcé plusieurs fois. Ou de participer à un concours de littérature avec un jury qui ne sait pas lire. C'est ce que dit Paul. Il dit, c'est absolument ridicule, c'est de la folie que ce que vous faites. Et on sait que la justice humaine, elle se borne à voir l'extérieur, elle essaie d'apprécier un peu les motivations, mais elle n'a pas cette pénétration de la justice divine qui permet de comprendre les motivations profondes des hommes. Il leur dit, Je le dis à votre honte, vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un qui puisse arbitrer un conflit entre les frères. C'est un peu comme vous qui avez des enfants. Vous savez, lorsque vos enfants se disputent, vous les prenez tous les deux. Arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Et en tant que parent, vous êtes à même de décider d'une conduite à tenir. Et de la même façon, dans l'église, on devrait être capable d'aller vers quelqu'un et de dire, on a un problème, est-ce que tu peux nous aider à le résoudre? Il va plus loin. Il leur dit au verset 7, c'est déjà une défaite que d'avoir un procès. Que vous gagnez le procès ou pas, le fait que vous ayez un procès, c'est déjà une défaite. On l'a vu parce que c'est un mauvais témoignage pour le royaume de Dieu. Les gens se disent, eh ben, si c'est ça les chrétiens, ils peuvent rester entre eux. Moi, je préfère être de mon côté et pas être avec ces hypocrites. Il va même plus loin, il leur dit, pourquoi vous n'êtes pas prêts à subir une injustice? Quelqu'un vous doit de l'argent, la personne ne peut pas rembourser ou ne veut pas rembourser. Eh bien, pardonnez-lui et dites adieu à votre argent. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est vrai que si on se comporte comme le monde, dans nos disputes entre nous, les gens se disent, à quoi bon? Est-ce que quelqu'un peut croire que la foi chrétienne, c'est la réponse aux problèmes de la vie? Si, lorsque ceux qui suivent le Christ vont vers le monde pour essayer de régler leurs problèmes. Donc cette exhortation de Paul, je vous demande vraiment de la mettre dans votre cœur. Ça peut paraître très éloigné, 2000 ans, on n'a pas de procès. Mais s'il y a des disputes, s'il y a des situations, plutôt que de garder de la rancœur, on doit pouvoir les régler entre nous. Et Jésus lui-même, si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi, Matthieu 5, 38, c'était l'enseignement même de Jésus. Dans la page à la colombe, c'est Matthieu 5, 38, c'est page 5. C'est à la fin, au début du Nouveau Testament, je ne sais pas si c'est une double numérotation. Matthieu 5, 38 à 42. Il leur dit. Jésus dit à ses disciples, à la foule à laquelle il parlait pendant le sermon sur la montagne. Et là, comme Jésus le faisait, il montait la barre. Bientôt, on va voir les Jeux Olympiques, on va voir le saut en hauteur, ou le saut à la perche. On sait qu'il monte la barre progressivement, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui arrive à passer la hauteur et qui gagne. Les juifs de l'époque avaient entendu la loi de Moïse. Ils se contentaient de suivre la lettre de la loi. Et ils s'en vantaient eux-mêmes, de dire « Oh, moi, je travaille pas le dimanche. » Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était que Dieu, il juge le cœur. Et c'était quelque chose de plus profond qu'il voulait voir dans ces hommes. Et donc il va leur dire, vous avez entendu certaines choses, mais moi je vous dis que c'est encore plus difficile que vous ne croyez. Verset 38, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est ce qu'on appelait la loi du talion. Si quelqu'un vous faisait donner un coup de poing dans l'œil, vous pouviez lui donner un autre coup de poing dans l'œil. Si vous cassez une dent, vous aviez le droit de lui casser une dent, pas plus. Alors on peut dire que c'était un peu cruel, mais en fait c'était pour éviter l'escalade de la violence. C'est comme ça que les guerres commencent. Quelqu'un tue quelqu'un, et au lieu d'aller tuer cette personne, on va tuer toute la famille. Et puis tous les membres de la famille vont. Et ça escalade. Alors c'est vrai que ça tolérait la violence, mais c'était pour la limiter aussi. Mais Jésus dit, œil pour œil et dent pour dent, c'est bien, mais moi je vous dis même d'aller plus loin. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, donc un kilomètre, on va dire, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Quand Jésus dit, les choses terrestres, ne les agrippez pas de toute votre énergie. Vos richesses, elles sont temporaires. Si quelqu'un vous les prend, eh bien qu'il en soit ainsi. Je sais que on a des personnes qui ont perdu des vélos, il n'y a pas. Eh bien, soyez encouragés, Jésus vous dit, c'est pas grave. C'est temporaire et je sais que le Seigneur a déjà pourvu en remplacement. C'est vrai que sur le moment, ça fait très mal au cœur. Mais les choses ici-bas, on ne doit pas les tenir trop fort. Parce que de toute façon, un jour, on est appelé à tout les laisser. Les trésors d'ici-bas, les belles maisons, les belles voitures, les stéréos, ce que vous pouvez, les ordinateurs, tout ça. Un jour, on vous demandera de dire adieu à tout ça. Et il faudra avoir accumulé des trésors dans l'au-delà. Et Jésus nous dit de pas accumuler de trésors ici-bas, parce que ça, c'est une réalité inéluctable. Aujourd'hui, on est là à profiter de ce bel endroit, de cette belle journée d'été. Mais où serons-nous dans 50 ans, dans 30 ans, dans 5 ans? Peut-être certains d'entre nous ne seront plus là. Pensons aux choses éternelles. Alors il s'énerve avec eux, mais on sent que c'est une colère qui veut leur faire du bien. Il leur dit, arrêtez de vous disputer comme des enfants pour des petites choses. Et puis à la fin, à partir du verset 9 à 11, ils leur disent, quand vous agissez de la sorte, quand vous êtes tellement accaparés par les choses terrestres, c'est une espèce d'injustice que vous commettez, parce que ce n'est pas ce qui compte dans le royaume de Dieu. Et puis il leur dit aussi, parmi vous, pour qu'il y ait ces problèmes, c'est que parmi vous, il y en a qui empruntent sans, dans l'idée de ne pas rendre, il y en a qui volent, il y en a peut-être qui trompent leur frère. Il dit tout ça, c'est pas digne d'un chrétien. Il leur rappelle que c'est pas le tout de se dire chrétien, il faut se conduire en chrétien. Parce qu'il n'y aura pas d'héritage de vie éternelle, de paradis pour ceux qui vivent de façon mauvaise, de façon injuste, pas dans la justice. Et là, il leur dit, ne savez-vous pas que ces gens mauvais, ils n'iront pas au paradis? Alors il donne toute une liste, les débauchés, c'est-à-dire ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle, les idolâtres, les adultères, les dépravés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, ceux qui veulent à tout prix les choses des autres, les ivrognes, ceux qui se livrent à l'alcool, ceux qui disent du mal des autres, les insulteurs, ceux qui accaparent, ceux qui aussi cherche à attraper les choses terrestres. Alors attention, ça, vous n'irez pas au paradis. On a chanté une chanson tout à l'heure dans laquelle on disait « Oui, j'irai au paradis ». Sous-entendu, parce que je crois en Dieu, je crois en ce que Jésus-Christ a fait, et je sais que par son sacrifice, il m'offre le paradis. Je suis pardonné, il m'accueille dans sa vie éternelle. La plupart des gens, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils pensent qu'ils iront au paradis. Il y avait cette fameuse chanson « On ira tous au paradis ». Et ce qui est curieux, c'est que même les gens qui... Il y a souvent des témoignages de personnes qui étaient sur un lit à l'hôpital en train de subir une opération de chirurgie. Et ils rapportent qu'ils ont quitté pendant un instant leur corps. Ils ont une expérience de... Comment on dit en français? Voilà, enfin de séparation de leur âme et de leur corps. Alors ils disent, oui, je suis monté au plafond, je voyais mon corps Je voyais les chirurgiens qui s'affairaient autour, scalpel, un 8 de 12, qui appelaient les infirmières. Et j'étais là, j'étais bien. Et puis j'ai vu un tunnel de lumière. Et j'ai senti un amour et je ne voulais plus revenir. Tous les gens pensent que ça se passe comme ça maintenant. Parce que c'est popularisé, c'est quelque chose qu'on aime bien entendre. Mais un pasteur faisait remarquer qu'en fait, les gens qui croient au paradis, l'information, ils la tirent de quelle source? De la Bible. C'est la Bible qui parle du paradis. Et ce qui est intéressant, c'est que cette source d'information, elle parle encore plus d'un autre endroit qui s'appelle l'enfer. Et l'enfer, c'est un endroit réel. Alors là, le gouvernement dit, je fais de la manipulation mentale. Non, c'est la vérité biblique qui est établie depuis plus de 2000 ans. L'enfer est un lieu réel, le paradis est un lieu réel. C'est d'être en présence de Dieu. Et il ne s'agit pas de croire qu'on peut y aller simplement en étant une bonne personne. On se dit, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, j'ai jamais violé. Je fais de mon mieux, donc je mérite quelque part d'aller au paradis. Dans la Bible est claire, tous sont péchés et sont séparés de la gloire de Dieu. Sanctifiés, justifiés, vous avez été lavés. Lavés, sanctifiés, justifiés. On va les prendre à l'envers. Justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire être déclaré juste par Dieu. Ça ne veut pas dire que l'on est parfait, mais simplement on est pardonné par Christ et il nous accepte. Il nous dit, maintenant, parce que tu as cru au sacrifice que Jésus a créé, Christ a fait sur la croix, qu'il a pris tes péchés, moi je te prends comme si tu n'avais jamais péché. Et il nous déclare juste. C'est merveilleux. Et ça, c'est seulement, on reçoit cette justification, ce que la Bible appelle la justification, par la foi. C'est pas en essayant d'être bon qu'on y arrive, c'est en reconnaissant qu'on n'y arrive pas tout seul et qu'on reçoit ce cadeau. Et ensuite, on est sanctifié, c'est-à-dire transformé progressivement à l'image de Jésus. On est justifié, c'est une déclaration, mais après, Dieu va travailler sur notre caractère. Il veut que nous soyons de plus en plus à l'image de Jésus. Et on est lavé, on est nettoyé du péché. Est-ce que vous avez déjà apprécié une bonne douche après avoir fait un match de foot ou un effort physique où on est tout sale, où on ne s'est pas lavé depuis plusieurs jours? Je ne sais pas si les campeurs ont pris des douches ou pas. Mais ce n'est pas un reproche, hein, on n'a pas encore de plainte à vous adresser. Mais ça fait tellement du bien de se sentir lavé. Et peut-être parmi nous, il y en a qui ont besoin de se sentir lavé du péché, lavé de choses qui sont mauvaises. Même des chrétiens, on peut implorer, demander, confesser nos péchés, et Jésus nous pardonne tous nos péchés, nous lave de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Alors ça, c'est la grâce de Dieu. Et Paul nous dit aussi, est-ce que vous avez reçu cette grâce de Dieu? Parce que si vous l'avez reçue, vous devez la montrer aux autres. Je crois que le Seigneur nous a dit qu'on va terminer avec cette dernière exhortation. Qu'avez-vous fait de la grâce de Dieu qui veut vous pardonner? Pardonnons-nous les uns les autres, mais surtout recevons le pardon que Dieu veut nous offrir. Prions. Seigneur, merci pour ce passage qui nous rappelle de façon très pratique qu'être chrétien, ça doit aussi se manifester dans notre vie quotidienne, dans notre vie entre frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, dans le reste de la journée, de nous permettre de manifester cet amour, de ne pas être ces accapareurs qui veulent se servir les premiers ou qui veulent les meilleures places, Seigneur. Donne-nous vraiment de manifester ta grâce, ton amour. Merci, Seigneur, de nous rappeler que, en dépit de nos péchés, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons aller au ciel. Et que c'est cette nouvelle naissance qui nous donne une nouvelle nature, un nouvel appétit pour toi, Seigneur, pour ta justice. Seigneur, nous ne voulons pas encourager le péché en disant qu'il est pardonné, que Seigneur, nous voulons reconnaître que en toi nous devenons une nouvelle créature. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui voudraient faire cette démarche de recevoir le Christ pour être une nouvelle création. Si c'est le cas, je vous demanderai de prier avec moi en silence cette prière, dans le silence de votre cœur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice. Je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix, pour mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Que dans ma vie, je fais beaucoup de choses qui ne sont pas à ta gloire, qui t'ignorent, qui sont pour moi, Seigneur. Je vois le mal que ces choses ont pu causer autour de moi, pour les autres et pour moi-même. Seigneur, je te demande pardon. Je veux recevoir ta vie dans mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur, qu'il devienne ta maison. Que ce soit toi qui me guide maintenant dans ma vie quotidienne, dans mes décisions. Aide-moi par la présence de ton Esprit Saint, Seigneur, à vivre pour te plaire. Seigneur, je te remercie de venir dans ma vie. Amen. Voilà. S'il y en a qui ont prié cette prière, je leur demanderai de venir me le dire. Et je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée. Que Dieu nous veille sur nos jeux, notre repas. Et merci à Dany et Laurent de nous accueillir encore une fois. Dany disait que ce serait bien d'en faire une tradition. C'est vrai, on n'est pas esclave des traditions, mais il y a des traditions bien sympathiques. Encore merci de leur accueil et merci d'avoir accueilli aussi nos campeurs. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen. Amen.